J'ai été très clair dès le début. Si les Tibétains choisissent la violence pour résister aux Chinois, alors je me retire de mes responsabilités.
We are going to be dead anyway. You know,
face à un milliard de Chinois, nous allons tous disparaître, c'est évident.
So, at least,
quitte à mourir, autant mourir avec dignité, les armes à la main.
Leave it properly.
Ils nous ont passé des sangles autour du cou. Ensuite, ils nous ont violés avec des matraques électriques. Puis, ils nous ont exposés nus aux yeux de tous.
Les Chinois cherchent à savoir qui nous sommes. Si nous sommes pris, nous serons torturés et fusillés.
Voici l'histoire de la résistance tibétaine à 40 ans d'occupation chinoise. Lhasa, capitale du Tibet. Le Norbulinka, le palais d'été du Dalai Lama. Ce jour-là, le Dalai Lama est convié à se rendre, sans escorte, dans le camp militaire chinois. Son peuple, persuadé que les Chinois vont l'enlever, se rassemble autour du palais. C'est par une porte dérobée, habillé en militaire de l'armée tibétaine, que le 14e Dalai Lama quitte son palais et le Tibet pour se réfugier en Inde. Il est 00h05, le 11 mars 1959, une page de l'histoire du Tibet vient d'être tournée. En 1950, Mao proclame que le Tibet fait partie de la Chine. Le Dalai Lama, le dieu roi des Tibétains, devient l'otage des Chinois. Le Dalai Lama tente pourtant de négocier une forme d'autonomie pour le Tibet. Il va même jusqu'à se rendre à Pékin en 1954 pour y rencontrer Mao, qui conclut leur dernière entrevue par ces mots « La religion est un poison ». Commentaire du Dalai Lama sur Chuen Lai, « Il est trop poli pour être honnête ». Commentaire du maréchal Chen Yi sur le Tibet, « Le marxisme va élever ce peuple arriéré au rang de la Chine ». Les efforts de conciliation sont vains, puisque la Chine ne laisse au Dalai Lama que son pouvoir spirituel et à un gouvernement tibétain fantôme le soin de gérer les affaires courantes. Pendant ce temps, l'armée chinoise se livre à une répression féroce dans les provinces tibétaines. Mais en 1956, les Chinois se heurtent à la résistance des Kampa, race de guerriers traditionnellement rebelles de l'est du Tibet.
En
1956, nous nous sommes révoltés parce que les Chinois nous ont demandé de déposer nos armes et nous ont dit « Nous allons tout changer, maintenant c'est le communisme ». Alors nous, les Kampa, nous avons organisé une armée secrète, l'armée de la liberté, et nous avons engagé le combat. Mais nous n'avions que des armes légères face aux canons chinois, alors nous avons décidé d'aller à Lhasa demander l'aide du gouvernement tibétain.
En 1956, pourquoi avez-vous refusé l'aide que vous demandez les guerriers Kampa?
Il fallait que nous ayons une politique qui puisse apaiser la Chine. C'est pourquoi le gouvernement tibétain a déclaré illégale la résistance des Kampa.
En fait, au même moment, le Dalai Lama songe lui aussi à demander de l'aide pour le Tibet. Après de longues négociations avec les Chinois, il obtient l'autorisation de se rendre en Inde, à l'invitation de Nehru. Mais en pleine idylle avec la Chine, Nehru oppose un refus poli, mais ferme, aux demandes d'assistance du Dalai Lama.
C'est en Inde, à New Delhi, que d'autres chefs Kampa et moi-même avons pu rencontrer le Dalai Lama. C'était la première fois qu'il pouvait parler sans être espionné par les Chinois. Il nous a dit « Je ne peux rien faire pour vous, mais je vais vous aider à ma façon ». Il nous a demandé d'obéir à son frère, Gyalo Tongdup. C'est le frère du Dalai Lama qui a tout organisé. On nous a emmenés dans une base secrète de l'armée américaine au Japon. Là, nous avons appris les méthodes de guérilla. Quelques mois plus tard, nous avons été parachutés au Tibet. Mon nom de code était Tom. Nous étions en contact permanent avec la CIA qui nous envoyait des armes. Au début de 59, j'ai reçu un SOS me disant que le Dalai Lama allait être enlevé et tué par les Chinois et qu'il fallait qu'il parte en Inde. Nous avons encerclé les troupes chinoises pour protéger sa fuite.
Le Dalai Lama savait-il que vous travaillez avec la CIA?
Oui, il le savait. Les États-Unis voulaient à tout prix sauver le Dalai Lama. J'ai donc rencontré sa sainteté et je l'ai aidé moi-même à s'échapper. Les Américains nous ont remerciés et nous ont dit « La situation devient dangereuse pour la résistance. Il faut quitter le Tibet. »
Les Dalai Lama en sûreté en Inde, les Kampas quittent le Tibet afin de poursuivre la résistance. Au début des années 60, une poche de résistance s'organise au Népal, près de la frontière avec le Tibet, dans une région coupée du monde, la vallée du Mustang.
Au Mustang, nous avions 16 bases de résistance. Nous ne savions pas ce qui se passait d'une base à une autre. Nous étions 3000. Nous organisions des raids à l'intérieur du Tibet. Notre but était d'affaiblir l'armée chinoise en attaquant ses convois et de faire savoir au peuple tibétain que la résistance continuait.
Ces images de la résistance Kampa du Mustang sont uniques au monde. Elles ont été filmées par un Anglais, Patterson. Il a suivi les résistants lors d'un raid à l'intérieur du Tibet. Après 13 heures de marche, à travers les cols de l'Himalaya, il tente une embuscade à un convoi chinois. Qui vous donnait des armes?
These came from the CIA.
La CIA. La CIA a entraîné aussi certains hommes aux États-Unis, puis les parachutés. Au début, les Américains ne nous aidaient pas beaucoup, mais un jour, nous avons capturé un général chinois et saisi des documents secrets. Ils contenaient des renseignements capitaux sur Mao, alors la CIA a renforcé son aide. Mais en 1972, les Américains ont promis aux Chinois de ne plus aider la résistance tibétaine. C'était après le voyage de Nixon à Pékin.
Ils sont les derniers survivants de la résistance du Mustang. Les Américains les ont lâchés le jour où un accord avec la Chine est devenu plus important que la lutte contre le communisme. Le roi du Népal les a pourchassés lorsque Pékin lui en a donné l'ordre. Malgré les consignes de silence du gouvernement népalais, l'un d'eux accepte de parler à condition de ne pas être identifié. Qui vous a demandé d'arrêter cette lutte?
C'est le Dalai Lama. Nous avons reçu son ordre en 1974. Sa voix était enregistrée sur une cassette qu'on nous a apportée depuis l'Inde. Nous avons dû lui obéir.
Quelle a été votre réaction?
On a écouté la cassette qui disait « Il faut rendre vos armes au gouvernement népalais ». Certains se sont mis à pleurer, d'autres à boire. Il y en a un qui s'est tranché la gorge devant moi.
En 1974, nous avons envoyé une cassette aux résistants Kampa, leur demandant d'arrêter la lutte.
Oui, car je ne crois pas que la violence serve à quoi que ce soit.
Vous étiez le seul à pouvoir convaincre les Kampa d'arrêter le combat. Vous pensez que c'était la seule solution?
Oui.
Pourquoi?
FD, s'il s'était révolté contre les Népalais, il n'aurait pas tenu plus que quelques mois. Et puis, il y a des milliers de Tibétains qui vivent au Népal, et un conflit avec le Népal aurait eu des répercussions néfastes pour eux.
Almost like it's a dream.
Ne pensez-vous pas qu'à cause de votre ordre, vous avez stoppé toute possibilité de résistance?
Je ne crois pas, car la résistance contre l'occupant chinois existe toujours au Tibet. Les Tibétains refusent d'obéir à la Chine. Ils luttent pour garder leur identité. Mais ils ne doivent pas céder à la violence. Je m'oppose à la résistance armée.
Lhasa, capitale du Tibet occupée par la Chine depuis 40 ans. L'invasion du Koweït a déchaîné l'opinion internationale. Mais sur l'annexion du Tibet par la Chine, silence. Sur les déportations, sur les massacres, sur une politique d'extermination systématique, silence. Le Tibet a payé le prix fort au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures chinoises. Tandis que des témoignages accablants sur le génocide tibétain dormaient dans des placards. À la fin des années 80, avec l'arrivée des premiers étrangers, sortent les premières images. Le choc des couteaux va lézarder le mur de silence que le poids des mots n'avait pu ébranler. Depuis 1987, lorsque les Tibétains crient, le monde les entend. Après une série de manifestations, la loi martiale est instaurée en 89. Elle est levée un an plus tard pour amadouer le Sénat américain qui se prépare à renouveler à la Chine son statut de nation la plus privilégiée. La Chine veut montrer une image acceptable de l'occupation armée, même si derrière la façade, 30 divisions chinoises campent aux portes de Lhasa. Il y a du changement depuis que la loi martiale a été levée.
Quelle question! Évidemment qu'il y a du changement. S'il y avait toujours la loi martiale, vous n'auriez même pas pu rentrer chez moi. Vous enregistrez en ce moment?
Non, nous filmons.
Oui, enfin, j'ai compris. Vous m'enregistrez. Mais vous savez que j'ai peur. Si ça se sait, ça sera catastrophique pour moi et ma famille. En plus, quand je critique les Chinois, je ne suis pas tout à fait juste avec eux. Parce que mon mari travaille pour eux. Beaucoup de Tibétains ont simplement du mal à vivre. En fait, on ne peut rien faire contre les Chinois. La Chine écrase le Tibet comme le ciel écrase la terre.
Alors vous pensez qu'il faut manifester?
Ça ne sert à rien qu'une minorité de gens crient des slogans pour l'indépendance du Tibet. Ils sont immédiatement arrêtés.
Qu'est-ce qu'on entend en ce moment dans le haut-parleur?
Tous les peuples du monde aiment la paix et les Tibétains n'aiment pas la violence. Voilà ce que dit le haut-parleur.
Vous pouvez nous parler des dernières manifestations?
De nombreux manifestants ont été arrêtés et ils sont toujours en prison. Mais à l'étranger, vous savez déjà tout ça. Au Tibet, beaucoup de gens pensent que vous, les étrangers, vous parlez du Tibet quand ça vous arrange. Et quand ça ne vous intéresse plus, vous nous laissez tomber. Regardez bien ces images. Elles ont été tournées au Potala. Le palais du Dalai Lama est l'objet d'un véritable culte. Ce qui se passe sous vos yeux est un résumé de la nouvelle politique chinoise. Pour avoir déjà filmé le Potala en 87, nous pouvons affirmer que l'encadrement de ces pèlerins par la police chinoise et la milice tibétaine est une nouveauté. Thank you.
Un vaste réseau d'indicateurs a été mis en place. Les informateurs tibétains sont recrutés après qu'un de leurs proches ait été séquestré et menacé en cas de non-coopération. À la répression et à l'encadrement est venue s'ajouter une arme redoutable, l'assimilation. Des millions de colons chinois ont fondu sur le Tibet comme un vol de sauterelles. Et des sauterelles en Chine, il y en a 1 milliard. La Chine a renoncé à une politique d'extermination devenue trop voyante au profit d'une politique d'assimilation.
Comment est la vie à Lhasa ?
Difficile.
Pourquoi ?
Vous le voyez, les gens sont pauvres et il y a de plus en plus de colons chinois. Ils nous prennent le peu de travail qu'il y a et ne nous laissent rien. Ici, les Chinois représentent 60% de la population.
Comment se sont passées les manifestations ? Il y a eu des morts ?
Oui, il y a eu des morts.
Combien ?
Je ne sais pas. En 88, j'étais à la manifestation. J'ai vu de mes yeux comment les Chinois tiraient sur les gens. Le premier jour avec des bombes lacrymogènes, le deuxième jour avec des fusils.
Il y a eu des morts par balles ?
Oui. En plus, ils ont utilisé des balles empoisonnées. J'ai une amie qui a reçu une balle empoisonnée. Elle a dû se faire amputer du bras.
Et c'était en 88.
Oui, en mars 88.
Et en mars 89, c'était comment ?
En 89, c'était pire, car il y avait encore plus de policiers et de soldats chinois. Et ils ont tiré tout de suite sans sommation.
La Chine a avalé le Tibet, mais elle a du mal à le digérer. Ce film a été tourné par la police chinoise en 88. Il a servi à identifier les manifestants qui ont ensuite été arrêtés. Au Tibet, c'est bien avant Tiananmen que les Chinois ont eu l'occasion de transformer les images vidéo en armes de répression. Les monastères sont l'âme de la résistance tibétaine. Les moines et les nonnes osent encore défier l'énorme arsenal de répression. Ils manifestent sans relâche pour réclamer l'indépendance du Tibet et le retour du Dalai Lama. Pourtant, les Chinois ont utilisé tous les moyens pour anéantir le clergé tibétain. Car la religion reste aujourd'hui comme il y a 40 ans, la seule arme du peuple tibétain pour sauvegarder une civilisation en péril. Il faut un courage inouï aux moines pour nous glisser quelques mots à l'oreille.
C'est très strict. Il y a 20 policiers tous les jours dans le monastère. Aujourd'hui, c'est dimanche, il y en a peu. Il y a beaucoup de nonnes et de moines en prison.
Nous ne pouvons suivre les enseignements. Nous sommes obligés d'assister à des cours de rééducation.
Nous devons demander des autorisations pour exercer la religion.
40 moines ont été expulsés pour cause de résistance. On est heureux de voir des étrangers raconter comment on vit.
Lorsque les moines et les nonnes sont expulsés des monastères, ils sont reconduits dans leur village avec l'interdiction de pratiquer leur religion. Ils n'ont d'autre choix que de quitter le Tibet et rejoindre l'Inde. Dharamsala, parcelle de terre indienne accordée aux Tibétains regroupés autour du Dalai Lama. C'est à Dharamsala que s'écrit l'histoire du Tibet. Il y a l'histoire officielle, racontée par les Chinois, et celle que racontent les réfugiés tibétains arrivés en Inde. Ce n'est évidemment pas la même. Dharamsala, la mémoire du Tibet. Chacun ici écrit son histoire. Les témoignages sont confrontés les uns aux autres, région par région, village par village. C'est ainsi qu'a été établi le bilan de 40 ans d'occupation chinoise. 1 200 000 morts, soit un Tibétain sur 6. Victimes des famines, exécutions et déportations ordonnées par Pékin. Dans cet enregistrement, un survivant des camps de la mort raconte comment les Chinois exterminaient les prisonniers sans les tuer de leurs mains, en les affamant. Aux années de grande purge a succédé une répression plus sourde, avec son lot de tortures. 3000 prisonniers politiques croupissent dans les prisons dont le nombre augmente. Des témoignages directs nous ont confirmé la présence d'enfants incarcérés pour activités contre-révolutionnaires. Environ 100 000 Tibétains se sont réfugiés en Inde. Nous entrons en contact avec la deuxième génération, celle des jeunes nés en Inde et qui rêvent d'un Tibet libre. C'est alors que notre reportage prend un tour inattendu. Les autorités indiennes cachent soigneusement ce qui va suivre. Après de longues négociations, ces jeunes Tibétains acceptent de nous conduire dans une zone très sensible du nord-est de l'Inde. Nous arrivons aux portes d'un camp, celui du 22e régiment de parachutistes.
On est en permission. On fait partie des forces spéciales de la frontière.
Qu'est-ce que c'est, les forces spéciales de la frontière?
C'est un corps de volontaires. C'est le 22e régiment. Mais vous savez, on ne peut pas tout vous dire.
C'est un régiment de Tibétains?
Oui, on est à peu près 1500.
Qu'est-ce que vous y faites?
On reçoit un entraînement de commando, mais je ne devrais pas vous le dire.
Et pourquoi vous vous entraînez?
Je pourrais vous répondre que c'est un entraînement de routine. Mais en fait, cet entraînement a un but, celui de nous battre à l'extérieur de l'Inde.
Est-ce que vous avez l'intention de vous battre au Tibet?
À ça, on ne sait pas. Il faut attendre les ordres. L'idée, c'est de se former et à l'avenir, s'il y a la guerre, de se battre.
Mais de vous battre pour le Tibet?
Oui. Oui, on peut dire que le but, c'est ça.
Et qui vous donne les ordres? C'est le gouvernement indien?
Oui, le gouvernement indien.
Après avoir quitté le Tibet, cet ancien membre de la résistance Kampa a eu de hautes responsabilités dans le 22e régiment.
Le 22e régiment est un régiment tibétain. Il a été fondé en 1962. Après la fuite du Dalai Lama en 1959, nous nous sommes divisés en deux groupes. Le premier groupe est allé faire de la résistance au Mustang. Le deuxième groupe a créé le 22e régiment en Inde. C'est le frère du Dalai Lama, Gyalo Tondup, qui a tout organisé. Le but était de préparer des soldats à aller combattre les Chinois au Tibet. Au début, l'armement et l'entraînement étaient assurés par les États-Unis. L'aide américaine s'est arrêtée en 72 après la visite de Nixon à Pékin. Et actuellement, tout est pris en charge par le gouvernement indien.
Combien de jeunes Tibétains sont entraînés par les Indiens?
Plus de 20 000 Tibétains ont été entraînés par les Indiens depuis 1962.
Et en ce moment, il y en a combien?
Il y en a 8 000.
Quel est le type d'entraînement?
C'est un entraînement combat de guérilla. Mais je ne peux vous en dire davantage, car cela concerne la sécurité de l'Inde. Et j'ai promis de ne pas parler. Je n'ai même pas le droit de sortir de ce pays, car je détiens des secrets militaires.
Yongge Tsang, héros de la résistance Kampa, est l'un des fondateurs du 22e régiment. Il accepte de nous dire à quoi sert ce régiment tibétain dans la stratégie indienne.
Le 22e régiment est stationné en plusieurs zones, A, B, C, D. Il s'agit d'une stratégie qui prévoyait l'invasion du Tibet. Elle a été mise en place en 1962, après la guerre entre la Chine et l'Inde. Depuis, la structure est restée la même dans la stratégie de défense indienne. La section A au nord de l'Inde, les sections B et C dans la région du Sikkim, la section D dans l'Assam. Les Tibétains stationnent sur les frontières en altitude dans ces différents secteurs. Dans l'armée indienne, les Tibétains sont les seuls à pouvoir survivre sur les hauteurs de l'Himalaya.
Pendant votre service militaire, où avez-vous été envoyé?
J'ai été envoyé au camp d'entraînement du 22e, puis à la frontière pakistanaise, enfin au Ladakh, à la frontière avec la Chine. Il y a souvent des accrochages à la frontière chinoise, mais personne n'en parle. Une nuit, j'ai entendu du bruit. J'ai vu des ombres. C'était des Chinois. Ils étaient trois ou quatre. J'ai tiré et j'en ai tué un.
Mais ce n'est pas pour le Tibet que vous vous battez. Alors, pourquoi?
Non, c'est vrai, c'est pour l'Inde. D'ailleurs, ce sont les Tibétains qu'on envoie en première ligne, ensuite les Indiens. Il n'y a rien à faire, nous sommes chez eux, et en cas de victoire, ce sont les Indiens qu'on montre à la télévision.
En 71, pendant la guerre d'indépendance du Bangladesh, les affrontements entre Indiens et Pakistanais ont été meurtriers. 4000 Tibétains du 22e régiment avec prime à l'appui ont renforcé l'armée indienne. 400 n'en reviendront pas. Vous êtes prêts à vous battre?
Jusqu'à présent, nous nous sommes battus pour l'Inde. Mais si on me donne un fusil, je suis prêt à me battre pour le Tibet contre les Chinois. C'est pour ça que j'ai été formé.
Après de longues discussions avec les paras du 22e régiment, on nous confirme l'existence en Inde de réseaux tibétains clandestins. Ils ont pour but la lutte secrète contre la Chine et servent de base arrière à certaines organisations de résistance au Tibet. Les membres du réseau sont recrutés parmi les anciens du 22e en raison de leur formation et de leurs convictions. Nous n'avons pu établir avec certitude les appuis dont ils disposent. On nous a laissé entendre que l'Inde y trouve son compte, mais également quelques agents de renseignement. Comment s'appelle votre organisation?
Elle s'appelle Tigre.
Combien êtes-vous?
Je ne peux pas vous le dire.
Dans votre groupe, il y a des Tibétains qui ont été infiltrés au Tibet. Allez, vous pouvez me le dire. Ils sont allés au Tibet depuis l'Inde.
Oui, depuis l'Inde et le Népal.
Comment s'établissent les contacts entre vous et l'organisation au Tibet?
Nous n'établissons jamais de contact direct. Nos contacts se font par d'autres agents secrets. Des agents de liaison.
Peut-il recourir au terrorisme pour obtenir la liberté?
Oui. On ne peut faire que du terrorisme, car nous sommes trop peu nombreux et nous ne pouvons pas combattre les Chinois face à face.
Mais pour recourir au terrorisme, il vous faut des armes?
Oui, au Tibet, ils ont des armes.
D'où ces armes proviennent-elles?
Ils fabriquent certaines armes eux-mêmes, les autres sont fabriquées à l'étranger. Je ne sais pas exactement où.
Comment ce matériel peut-il atteindre le Tibet?
Il y parvient secrètement.
Vous ne pouvez pas me dire comment vous faites?
Nous sommes bien organisés et tout se passe la nuit.
Un grand débat agite la communauté tibétaine. Faut-il résister par la violence ou par la non-violence? Le prix Nobel de la paix attribué au Dalai Lama en 89 a renforcé la position des partisans de la non-violence. Pour la quasi-totalité des Tibétains, il est inconcevable de ne pas obéir à sa sainteté le Dalai Lama. Tashi est partisan de la non-violence. Il est né en Inde. Il a été envoyé en mission au Tibet pour y créer un groupe de résistance. Nous l'avions rencontré pour la première fois en 87 à Lhasa, au Tibet. En 90, nous le retrouvons quelque part en Inde.
Notre première rencontre s'était à Lhasa, dans les toilettes d'un hôtel. Le mur était gris avec du carrelage.
Mais je ne me souviens pas de vos lunettes.
Je ne les portais pas car j'avais mis un masque. Et quand je me suis regardé dans la glace, je me suis dit que je ressemblais à un terroriste. Mais ce n'étaient pas des armes que j'allais utiliser, mais des paroles. Le lama Wangchuk est mort affamé et empoisonné. Il a été emmené à l'hôpital et une demi-heure après, il est mort.
Il nous apprenait, bien avant que la nouvelle ne soit connue dans le monde, la mort en novembre 87 du plus ancien prisonnier politique tibétain, Lobsang Wangchuk. Les Chinois l'avaient fait sortir en urgence de prison. Il mourra quelques heures plus tard après un crochet à l'hôpital. Selon le principe chinois, on ne tue pas de ses mains, on ne meurt pas en prison.
These are just my covering thing, but I worked mainly for.
J'avais été envoyé au Tibet sous une couverture pour informer des violations des droits de l'homme et je faisais des rapports à mes chefs. Puis, après les manifestations de 87, les Chinois ont intensifié les contrôles. Toutes mes activités étaient surveillées. Dormir était devenu un problème. J'avais toujours une personne avec moi car c'est la nuit que les Chinois font disparaître les gens. Grâce à ma couverture, j'ai pu sortir du Tibet. Il n'avait pas de preuves contre moi, mais la situation était devenue dangereuse. J'étais grillé.
Il est 17h. La patrouille chinoise est à l'heure. Matin et soir, les militaires font le tour du quartier. Un groupe de jeunes tibétains les suit. Les Chinois s'en méfient. Ce sont les Kampas, reconnaissables à leur turban rouge. Ils nous voient filmer les soldats et très vite forment un écran qui nous évite d'être repérés. Résistance spontanée. Résistance de tous les jours en territoire occupé. Il existe environ 30 réseaux de résistance clandestins au Tibet, regroupés au sein de trois grandes organisations. La plus connue est celle des tigres-dragons. Elles ne communiquent pas entre elles, et pour des raisons de sécurité, ses membres ne se connaissent que par groupe de 7 ou 8.
Je fais partie d'un groupe de résistants. Nous sommes tous nés après 59. Nous avons fait nos études en Chine et certains ont même été dans les jeunesses communistes.
Pourquoi faites-vous de la résistance?
Nous avons pensé qu'il fallait faire réagir la population par des tracts et qu'il fallait aussi communiquer avec l'extérieur du Tibet.
Avez-vous des contacts avec l'extérieur?
Dans notre groupe, nous avons des agents qui arrivent de l'Inde et qui sont spécialement envoyés en mission.
Quels sont vos moyens d'action?
Ça ne sert à rien de tuer quelques Chinois. Ils seront toujours plus nombreux que nous. Bien sûr, il y a des gens à Lhasa qui veulent résister par la violence, en faisant du terrorisme ou en exécutant des collaborateurs. Mais ils ne font pas partie de notre organisation. Pour nous, l'essentiel est que le monde parle du Tibet, pour que les Chinois ne fassent pas disparaître le peuple tibétain dans le silence. Mais le fait de parler peut nous coûter cher. Les Chinois cherchent à savoir qui nous sommes. Si nous sommes pris, nous serons torturés et fusillé.
Si l'enfant joue avec des billes, non avec des douilles de mitraillette AK-47, et à voir les gentils soldats de l'armée populaire de libération couper les cheveux des Tibétains, on se croirait dans un pays en paix. Le Dalai Lama parle de paix. Pour les dirigeants actuels de Pékin, paix signifie pacification. Ne pas entrer dans l'équation infernale, violence, répression, terrorisme, représailles. Ainsi pense et dit le Dalai Lama. Il compte sur un assouplissement de la politique chinoise et sur les pressions internationales. Mais à chaque fois qu'un pays étranger courtise la Chine, c'est le Tibet qui trinque. Il aurait suffi d'un mouvement de foule incontrôlé pour que le sang coule à nouveau au Tibet. Combien de morts faut-il pour un entrefilé dans nos journaux?
Personne n'aime la violence, mais en même temps, chacun l'encourage car elle est plus spectaculaire. Pourtant, la résistance tibétaine par la non-violence pourrait servir d'exemple sur cette planète. Tenzin Gyatso, 14e Dalai Lama.
Un reportage de Marie Louville.